quand le braquage se déroule comme prévu, vous avez ce sentiment de surpuissance. Ce qui est très, très faux. Hein. Pendant un moment, vous n'êtes plus sur Terre. Vous êtes dans un monde irréel. Parce que c'est excessif, parce que c'est fou. Je vivais comme dans la dimension parallèle.
Les braqueurs. Mickey. Épisode 5.
Je peux dire que j'ai été condamné à trois reprises en Europe, mais reproché de braquage de bijouterie. La police estime que j'en ai commis un petit peu moins d'une vingtaine. Mais bon, ça c'est leur droit. Hein. Ils estiment ce qu'ils veulent. Moi, je peux vous dire que j'ai été inquiété par la justice à deux reprises pour des vols de bijoux. Voilà. Mon dernier braquage, ça a été un véritable fiasco. Vraiment le contraire de tous mes principes. Ça a été pour payer une dette de jeu. J'avais écopé d'une peine de 10 ans en Autriche pour un braquage de bijouterie. Je sors de prison octobre-novembre 2010 en conditionnel. J'avais l'intention de vraiment tourner la page et de commencer à vivre. Quelques semaines plus tard, à ma porte frappe un homme, usurier, prêteur sur gage, parce que j'avais emprunté pas mal d'argent pour continuer à alimenter mon problème de jeu. Et avec lui est un type, un sale type, une raclure, mais une raclure très très dangereuse. Juste son nom évoque des frissons chez les gens. Il me met dos au mur et me dit « Écoute, Mickey, est-ce que tu peux payer ?» Ça fait des années que j'attends. Des années de détention, hein, de prison. Hein. Donc la réponse est négative, hein, je n'avais pas cet argent-là. Il me dit « Écoute, j'ai une solution pour toi. » Il me propose un braquage dans une bijouterie en Suisse. Avec trois autres types dans la même situation que moi, qui lui étaient redevables. Je n'avais jamais travaillé, je n'avais jamais commis de braquage avec aucun d'eux. Et de ces trois types, j'en connaissais qu'un seul. L'affaire a été préparée par l'usurier. Donc il y a eu très très peu de préparation. C'est un truc de folie. J'étais pris à la gorge, comme on dit. Rapidement, là nous sommes en février 2011. Je me retrouve à braquer une bijouterie en Suisse. Alors, un type reste dans la voiture, supposé un Schumacher. Comme à mon habitude, moi je suis l'ouvreur, je rentre en premier. Je maîtrise le gérant et une employée. Je leur passe les cirflex aux mains, etc. Les deux autres suivent, mais ne font rien de ce qui était prévu. Rien, mais alors rien, rien. Tout part à la dérive. Moi, je m'étais retrouvé dans une pièce séparée de la pièce principale avec le gérant et l'employé. Et eux rentrent, commencent à tout péter, mais ne baissent pas les stores. Bien évidemment, tout ce brouhaha attire l'attention parce que c'est une rue très passante. Je remarque trois policiers en pause, en train de regarder ébahis tout ce qui se passait dans la bijouterie. Et là, mon monde vacille. Les complices foutent la merde. On s'était convenu de parler qu'en anglais. Ils me disent en serbe, hey, « Hé, le grand, on va peut-être devoir se barrer, là. » Eux commencent à sortir. Ils commencent à menacer les gens avec une bonbonne de lacrymogène. Je sors derrière eux et j'exhibe cette arme factice. J'ai vu que la police n'avait pas d'armes. Sinon, ils auraient déjà longtemps dégainé. Parce que la police en Suisse tire d'abord et pose des questions ensuite. Donc là, nous sommes en fuite et nous sortons à peine de la ville qu'un véhicule de police nous prend en charge. Et le Schumacher, qui était supposé être un pilote, panique. Prend un chemin de forêt à 70 ou 80 km/h. Nous sommes tous en train de lui crier dessus « Ralentis, ralentis, abruti, ralentis, tu vas te manger un arbre, tu vas nous tuer. » La police à ce stade-là ne nous suit plus il prend un virage et à l'entrée du virage se trouve un tracteur grand comme une maison. Cet abruti s'encastre dans une de ses roues. Ça a été un arrêt immédiat. Le tracteur n'a même pas bougé. Quand la voiture a percuté ce tracteur, mon genou est venu percuter le tableau de bord, mais avec une telle violence qu'un courant électrique est passé à travers tout mon corps. Les complices, eux, sortent chacun de son côté et foutent le camp. Je suis sorti et je boitais péniblement jusqu'à la forêt toute proche. Je pouvais suivre les complices à la trace des bijoux qui perdaient derrière eux. Je n'ai même pas fait 500 mètres, je me suis écroulé dans un buisson. La police a retrouvé deux complices par la suite et le quatrième a été retrouvé. Il essaie de regagner la France, cet abruti, en faisant du stop, alors que déjà le signalement avait été émis sur toutes les radios, etc. Et voilà. Je me retrouve dans cette prison de 16 personnes. C'est incroyable. De la perspective française ou américaine ou autre, c'est vraiment incroyable. Le surveillant a le trousseau de clés à sa ceinture qui ouvre les portes de toute la prison. Donc, vous êtes à trois portes de la liberté de la sortie. En Suisse, c'est votre droit constitutionnel. Vous avez le droit de vous évader tant que vous ne commettez pas d'autres actes criminels. Donc, mon objectif, c'était de gagner leur confiance. La chance m'a souri. Au bout d'un mois, l'auxiliaire qui servait les repas sort de prison. Et pendant deux mois, je suis l'auxiliaire dans cette petite prison. C'est-à-dire que je suis le détenu à qui on ouvre la porte en premier et auquel le surveillant ferme la porte en dernier le soir. Je suis libre de mes mouvements dans cette prison toute la journée. Et je suis là à une porte de la sortie de cette prison. Une opportunité s'est rapidement présentée. Le dimanche en particulier, parfois, il n'y avait qu'un surveillant sur place. L'idée, c'était de demander à passer un coup de fil et de s'assurer que le surveillant était tout seul. Alors mon complice dans cette évasion, une personne que je ne connaissais pas du tout avant mon arrivée dans cette prison, m'a fait un signe de la tête positif, comme quoi ça pouvait se faire. Et au moment où le surveillant ouvrait la porte de mon complice, hein, qui était juste à côté de ma cellule, il m'a tourné le dos. Et là, je l'ai ceinturé. Au départ, il a pensé que je plaisantais. Il m'a dit « arrête tes conneries » ou un truc comme ça. Donc je le prends à la gorge sans serrer, mais je le prends à la gorge pour le faire voir que c'est sérieux. Et là, je lui dis « Gigi, déconne pas, rentre dans ma cellule. » Et donc, lui prend peur, se retourne, les larmes aux yeux, je m'en rappelle comme hier, me dit « Salaud, pourquoi tu me fais ça ?» Je lui dis « C'est pour l'amour et la liberté. » Je sais que je l'ai énormément déçu, mais physiquement et psychologiquement, j'étais à bout. C'était la fin. Je n'allais pas commettre d'actes irréparables, hein. Je ne suis pas suicidaire, ma foi ne me permet pas de penser comme ça. Donc je claque la porte et nous foutons le camp. Nous passons trois jours en forêt, nous ne nous déplaçons que la nuit. J'arrive à me repérer assez facilement avec les étoiles, etc. Nous sommes à un jet de pierre de la France. Je passe la frontière hein, cette nuit-là. J'ai retrouvé mon épouse qui était incroyablement surprise de me voir. Elle a su que j'étais revenu là que pour elle. On ne parle plus de Pink Panthers, on ne parle plus de rien. On parle d'un homme qui n'a qu'un seul but en tête, c'est de retrouver au plus vite la femme qu'il aime et de partir, espérer vivre quelque part où il ne sera pas inquiété, vivre tranquillement et caché, même s'il le faut, mais vivre en liberté et mettre toute cette histoire derrière lui. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Bon, j'attends qu'un ami revienne de vacances pour me prêter de l'argent. 3 semaines s'écoulent. Je suis interpellé et de nouveau incarcéré. Je vous avoue avec un sentiment de soulagement. Parce que finalement, je ne vais pas avoir à me cacher. Mais bien sûr, d'autres problèmes prennent place à ce soulagement. Hein. Parce que je me voyais extrêmement malade. Je suis atteint de sclérose en plaques. Hein. En prison, mon état se dégrade très rapidement. Je suis pratiquement invalide. Le braqueur d'antan n'est plus psychologiquement, physiquement. Et une chose incroyable arrive. La justice fait un travail juste, requalifie ma condamnation et décide de s'aligner sur les condamnations suisses. Et quand la présidente prononce 3 ans, j'entends pas 3 ans, j'entends la vie. J'interpelle la présidente et je lui dis « Madame, je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour la chance que ce tribunal m'accorde. Et je vous assure que ce ne sera pas en vain. » Voilà. Depuis mon incarcération aux États-Unis à l'âge de 27 ans, je n'avais jamais été en liberté plus de 8 mois, 8 à 10 mois. J'ai pratiquement passé 17 à 18 ans de prison. Depuis 2 ans et demi, je suis libre. Ça casse tous les records précédents. Mais j'ai 50 ans. Donc ça fait beaucoup. On ne va pas se mentir. Il fut une époque où je vivais très bien. Cet argent que nous avions amassé nous permettait de vivre nos désirs les plus fous. Je ne crache pas dans la soupe parce qu'il y a eu des souvenirs inoubliables avec les potes. On flambait. C'était un pied de nez à la société. Vous vivez pour le jour même. Demain, c'est déjà loin. Vous vivez que pour le moment. Donc dès que vous avez cet argent, vous le gaspillez bêtement. Et c'est de l'argent pratiquement jeté par la fenêtre. Aujourd'hui, ce sont des années-lumière de ma vie actuelle. Je n'ai jamais eu si peu financièrement et pour la première fois de ma vie, je vis. J'apprends encore aujourd'hui à vivre les choses les plus banales. Manger une pizza en compagnie de ceux que j'aime, ce sont des choses qui sont magiques pour moi. Avant, il fallait que j'étudie et chaque regard. Est-ce que c'est un policier? Pourquoi ce regard? Aujourd'hui, j'ai gâché tellement d'années de ma vie, non seulement de la mienne. Allez, qu'importe la mienne encore. Mais la vie de ceux que j'aime aussi. Ma première épouse, comme ma seconde. Mon fils aussi, que je connais aujourd'hui grâce à Skype, parce que lui vit aux États-Unis et est né là-bas. Mais il n'a pas eu de père. Et il n'y a pas d'argent dans ce monde qui vaut ce prix. Il n'y a pas.
arteradio.com